Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est une Matahari 2.0 que l'armée israélienne vient de démasquer. Une espionne aussi accorte que virtuelle qui séduisait les soldats sur Internet pour mieux s'emparer de leurs données informatiques. D'après l'enquête des services de renseignement israéliens, le Hamas serait derrière cette supercherie en ligne. Alors quelle morale tirer de cette histoire? Eh bien qu'il vaut mieux ne pas se fier aveuglément à nos relations numériques. Toutes ne sont pas bienveillantes. Et d'ailleurs, quand bien même elles le sont, toutes ne sont pas valorisantes. Oui, car il en va aujourd'hui de notre réputation, donc de notre statut social, que de ne pas fréquenter n'importe qui sur les réseaux. Encore que ces amitiés ne nous engagent peut-être pas autant qu'on voudrait bien le croire. C'est ce qu'on peut retenir en tout cas de la récente décision de la Cour de cassation. Les juges avaient été saisis par un avocat, sanctionnés par le Conseil de l'Ordre de sa profession. Décision entachée selon lui de partialité, les membres de ce conseil étant amis sur les réseaux sociaux avec la partie plaignante. Il y a quelques jours, la Cour de cassation lui donnait tort en estimant que le terme d'ami employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme. Alors faut-il se méfier ou non de nos amitiés numériques? C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Gloria Origi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, chercheuse au CNRS. Vos études, vos recherches portent notamment sur l'épistémologie du web. Vous avez publié l'an dernier au PUF, enfin l'an dernier non, c'était en 2015, c'est là qu'on est en 2017, oui. La réputation, qui dit quoi de qui? Pour discuter avec vous, Valérie Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Juriste, vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Vous travaillez notamment sur le droit des TIC, des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Et puis troisième invité, Maëlle Guiton, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Libération. Vous avez un blog, technopolis.net. J'ai vu sur votre présentation sur Twitter cette mention, service du chiffre, OXF339631. Bon, c'est très très long. Qu'est-ce que ça veut dire cette présentation?
Je vous le demande
parce que comme c'est public, je me dis que vous ne le cachez pas.
Non, absolument pas. Bien au contraire, c'est ce qu'on appelle une clé de chiffrement qui permet de me contacter de manière sécurisée en étant sûre que je serai la seule à lire le message et de manière à ce que je puisse de la même manière répondre à mon correspondant. Donc c'est une pratique qui tend d'ailleurs à se développer de sécurité et de confidentialité des communications tout bêtement.
Voilà, quelque chose me disait que ce code-là que vous mettiez sur Twitter avait quelque chose à voir avec la discussion que nous allons avoir ce soir. Alors, il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder avec vous, mais je voudrais qu'on commence donc par cet arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu le 5 janvier dernier, en disant donc que le terme d'ami qui est employé sur les réseaux sociaux ne veut pas dire tout à fait la même chose qu'au sens traditionnel du terme, et donc qu'on ne peut pas forcément disqualifier des personnes qui seraient en lien justement sur des réseaux comme par exemple Facebook. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Valérie Nicolas? Est-ce que c'est une décision de bon sens ou est-ce que ça n'est pas une façon aussi de déresponsabiliser un peu les internautes en leur disant vous n'êtes pas responsable des amis que vous acceptez sur les réseaux?
Je pense que c'est l'intervention du juge pour en fait fixer un statut dont on se demande s'il était nécessaire qu'il le fasse, le statut de l'ami. Alors on n'avait pas de définition juridique de l'ami ou de l'amitié, et maintenant on a une définition juridique par la négative de ce que n'est pas l'amitié, c'est-à-dire que l'amitié, ça n'est pas la relation Facebook en l'espèce.
Enfin, ça peut l'être, mais ça ne l'est pas forcément.
Oui, c'est-à-dire, c'est ça. En fait, c'est le statut de l'ami Facebook qui n'est pas un statut d'amitié. C'est-à-dire que on peut quand même faire une différence entre le statut d'ami, qui n'est pas un vrai ami, mais qui peut l'être, et les conséquences de ce statut. Et en l'occurrence, dès lors que le statut d'ami est dénié aux amis Facebook, quel qu'il soit, sans distinction, eh bien, le juge gèle toute possibilité de poursuite de l'ami Facebook et là, en l'occurrence, traduisent par sa décision que le tribunal n'a pas failli aux règles de l'impartialité qui doit gouverner la tenue de ses audiences et de ses délibérés.
Gloria Origi, est-ce qu'elle est quand même pas un petit peu étrange cette décision, dans la mesure où, puisqu'on reste sur le cas de Facebook, quand on est en relation avec quelqu'un d'autre sur Facebook, c'est qu'il y a eu un consentement mutuel. on m'a demandé pour ami, j'ai accepté que vous soyez mon ami. Donc il y a quand même une, ce sont pas des amis par défaut. Donc il y a vraiment un choix qui est fait à la base et donc une forme de responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez vous aussi de cet arrêt de la Cour de cassation?
D'abord, c'est un arrêt intéressant. Philosophiquement, c'est intéressant parce qu'elle pose justement les questions qui vient d'être évoquées de qu'est-ce que l'amitié en général. Enfin, qu'est-ce que l'amitié hors Internet? Qu'est-ce qu'on considère nos amis et quand est-ce qu'on se sent trahi, trompé? Et quand est-ce qu'une relation de confiance peut aller devant un juge ou bien c'est juste une déception. Et c'est clair que l'Internet et les réseaux sociaux spécialement nous ont donné un nouveau concept d'amitié. To friend, c'est un verbe maintenant, comme to unfriend. Unfriend someone. En anglais, c'est un verbe. Donc clairement, la possibilité par exemple de... je ne sais même pas comment pourrait être le verbe en français, de amiter quelqu'un ou amicaliser quelqu'un ou le désamicaliser. Je voudrais parfois me libérer de certaines relations sociales et je ne peux pas, mais je ne peux pas me désamicaliser si facilement comme je peux me unfriend sur Internet. Donc la relation entre nos amitiés et nos rapports de confiance, qui sont beaucoup plus importantes à analyser, or, l'Internet dans l'Internet est quelque chose qui s'ouvre à des analyses de tout type. Je voyais, par exemple, il y a une artiste qui s'appelle Tanya Hollander qui a fait une étude sur ça. Et donc, les résultats seront exposés au Musée d'art du Massachusetts en mars prochain. Elle est allée voir tous ses amis. Facebook. Elle est allée les visiter. Alors, les 95% lui ont ouvert la porte en disant, mais je te laisse les clés, viens chez moi, t'es ma copine. Et d'autres, ils ont considéré presque de l'harcèlement, mais c'était un 5%. Donc, moi, je trouvais cette expérience assez amusante, enfin, pour se poser des questions nouvelles. Parfois, les nouvelles technologies nous apprennent des choses sur nos habitudes sociales traditionnelles. Enfin.
Amel Guiton, est-ce que ce que nous dit la Cour de cassation, ça n'est pas finalement, vous pouvez avoir des amitiés douteuses sur les réseaux sociaux, ça ne vous engage pas forcément, alors juridiquement bien sûr, mais ça n'est pas forcément, comment dire, une responsabilité qui peut se retourner contre vous. Ou bien est-ce que c'est une interprétation peut-être un peu trop large de cette décision?
Je crois, moi ce qui me semble en tout cas, hein, c'est que cette décision, elle a le mérite d'être extrêmement cohérente avec la réalité des usages et la variété des usages. Ce que dit la Cour de cassation, c'est qu'un lien Facebook n'est pas un lien d'amitié. Alors, ce qui, évidemment, ne correspond pas à la manière dont Facebook l'a appelé, mais entre le moment du tout début, où c'était un réseau pour étudiants, etc., puis aujourd'hui, où ça n'est jamais finalement qu'un immense annuaire universel, les pratiques, elles ont énormément bougé. Demander quelqu'un comme ami Facebook ou accepter d'ailleurs une demande d'ami, ça n'est jamais qu'une marque d'intérêt mutuel. Qui peut d'ailleurs être de l'intérêt pour des tas de raisons extrêmement différentes. Pour citer mon cas, j'ai une pratique assez extensive de ce genre de trucs. Il y a des tas d'amis Facebook dont je ne sais absolument pas qui ils sont.
Vous n'aimeriez pas fréquenter dans la vie, par exemple?
J'en sais strictement rien, probablement pas pour certains, mais à partir du moment où je me sers beaucoup de Facebook comme d'un outil de communication, on témoigne une marque d'intérêt pour mon travail, j'y réponds et ça ne va pas plus loin. Donc effectivement, dans les amis Facebook, il peut y avoir des vrais amis, enfin qui correspondent à des relations sociales réelles, et puis des gens avec qui on a juste des contacts assez lâches. Les journalistes se servent beaucoup de Facebook, par exemple pour trouver des contacts, pour faire des appels à témoins, etc. Et ça ne signifie pas effectivement un lien plus fort que celui-là. Donc ce que dit la Cour de cassation, c'est effectivement, c'est ce que vous disiez, hein, que un ami Facebook, ça n'est pas un ami.
Nicolas.
Ça peut l'être, mais ce que je remarque, moi, c'est qu'il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'un ami. On nous dit que ces relations ne sont pas des relations d'amitié au sens traditionnel. Ce n'est pas un ami au sens traditionnel. On ne nous dit pas ce que c'est que le sens traditionnel. Donc, il recouvre tout ce qu'on va y mettre. C'est-à-dire l'intimité, c'est-à-dire éventuellement la relation professionnelle, c'est-à-dire éventuellement la relation de proximité, parce que ça peut être votre voisin, et donc c'est une manière de communiquer plutôt que d'aller frapper à sa porte. Donc on ne sait pas. Mais en tout cas, le lien, c'est le lien de l'acceptation de l'avoir dans ses amis et qu'il soit dans, donc vous soyez dans son groupe d'amis.
Cela dit, c'est peut-être pas plus mal, Valérie et Nicolas, qu'il y ait ce flou, parce que ça laisse quand même une certaine liberté sur justement la façon dont on va gérer ses amitiés sur les réseaux sociaux.
Pardonnez-moi, juste pour terminer, juste ça. Ce n'est pas un ami. D'accord. Donc, les amis Facebook ne sont pas des amis au sens traditionnel, mais ça, c'est donc une définition large. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement les relations professionnelles, là, qui sont visées. Or, ce que la Cour de cassation avait sous les yeux était un litige professionnel, interprofessionnel même. Et donc, elle dépasse, sa définition de ce qui n'est pas un ami dépasse la simple relation entre professionnels.
Gloria Ruggi.
Je trouve très, très important ce que Valérie Nicolas vient de dire. D'abord, l'amitié, disons, philosophiquement, est définie comme une relation qui a à faire avec la sphère intime. Or, clairement, sur les réseaux sociaux, l'amitié est un fait social. C'est vrai aussi que, disons, comme on définit la modernité, les sociologues, les philosophes définissent la modernité comme le passage de certains faits du naturel au social. Non, l'alimentation est un fait naturel dans la nature, puis ça devient un fait social lorsqu'on commence à s'occuper des marques de vin, de la réputation des restaurants, etc. Pareil, les amis, aujourd'hui, l'amitié devient un fait social. C'est notre ego social et non pas notre ego intime, une distinction d'ailleurs que j'ai fait dans mon livre sur la réputation, qui est un jeu dans cette relation. Je voulais ajouter quelque chose sur ce que Valérie Nicolas vient de dire, je trouve très important. Elle dit, enfin là, c'était un contexte de litige professionnel. Or, même hors l'Internet, la première cause de faillite, dissolution d'une association ou d'une société, c'est l'inimitié, enfin la perte de confiance, c'est ce qu'on appelle la perte de confiance, et le fait que les personnes qui se sont mises dans un projet ne vont plus d'accord. Donc je pense que cet arrêt de la cassation, ça a à faire un peu plus avec des questions de confiance traditionnelles. Enfin,
vous faites bien d'ailleurs de rappeler que ça portait sur un litige professionnel, parce qu'il n'est pas dit qu'un tel arrêt pourrait s'appliquer beaucoup plus largement. Aujourd'hui, par exemple, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, quand on est en relation, donc en relation amicale du point de vue des réseaux sociaux avec, par exemple, des djihadistes, on prend quand même le risque de se voir poursuivi. Aujourd'hui, par exemple, quand on veut aller aux États-Unis et qu'on remplit, alors tous ceux qui y sont allés connaissent le formulaire ESTA, qui est un service où on remplit un certain nombre de renseignements sur sa personne. Aujourd'hui, on vous incite, même si c'est pas obligatoire, à dire quelle est votre pratique des réseaux sociaux. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui peut se retourner contre soi, Maëlle Guiton.
Oui, tout à fait. Mais là, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est d'un côté le judiciaire, enfin la possibilité de poursuite, et ça serait intéressant qu'il y ait une poursuite de cette jurisprudence, hein, voir justement si ça peut s'appliquer dans d'autres contextes que celui-là, et ce qui est de l'ordre du renseignement. Et c'est pas la même chose. Ah oui. C'est-à-dire qu'entre risquer d'être poursuivi parce qu'on a des amitiés Facebook effectivement très problématiques, ou être surveillé parce qu'on a des amitiés Facebook très problématiques, ce sont effectivement deux choses différentes. Et on sait que dans le cas du renseignement, oui, bien sûr, les services de renseignement s'intéressent de très près aux réseaux sociaux, parce que ça donne effectivement énormément d'informations. Enfin, le cas qu'on connaît bien en France, c'est celui du journaliste David Thompson, hein, qui travaille sur ces questions-là. Il s'est vu à plusieurs reprises fermer son compte Facebook, dont il avait aussi un usage professionnel. Il a d'ailleurs deux comptes aujourd'hui.
Sans qu'on lui dise pourquoi d'ailleurs, mais enfin, voilà, on suppose que c'est à cause de justement de ses activités, ses liens, disons, avec...
Voilà, dans certains cas, c'était directement lié à de la publication de contenu dont Facebook considérait que ça contrevenait aux standards de la communauté, etc. Et puis, il y a eu un cas, effectivement, qui était assez inexpliqué. Il lui dit que l'explication qu'on lui a donnée, c'était dû à des contacts qui étaient géolocalisés en Irak et en Syrie. Donc, on voit effectivement que les amis Facebook peuvent porter préjudice. Tout dépend, effectivement, de sur quel terrain ça se joue. Mais il est bien évident que sur la question du renseignement, c'est ce qu'on appelle le renseignement en source ouverte. Hein. Le fait de pouvoir, comme ça, cartographier les relations d'une personne, ça fait partie des... Ça fait partie des outils, ça fait partie des pratiques.
Cela dit, à ce sujet, il y a une loi qui a été votée, enfin, dans le cadre de la réforme de la procédure pénale en juin dernier, enfin, un délit de consultation habituelle de sites terroristes, alors qui fait l'objet d'ailleurs d'une QPC, d'une question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil constitutionnel doit bientôt trancher, mais il y a quand même certaines professions qui sont écartées de ce délit. Absolument. Et notamment, bien sûr, les journalistes qui travaillent sur ces questions de djihadisme. Valérie Nicolas.
Oui, je voulais juste, pour compléter ce que ma co-intervenante vient de dire, sur le statut, mais aussi sur ce qu'on appelle le like. Parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose que d'être ami avec une multitude de personnes dont on ne connaît pas forcément, dont on connaît la qualité au sens de ce qu'elles sont, ce qu'elles montrent être, mais pas forcément de ce qu'elles font aussi, mais aussi la différence qu'il faut faire entre être ami et liker, c'est-à-dire aimer ce qu'elles produisent sur Facebook et reproduire du contenu, c'est-à-dire le simple fait d'aimer montre que l'on participe du contenu. Et ça, dans le cadre de l'état sécuritaire dans lequel nous nous trouvons et de l'état d'urgence, le fait de liker est un indice de connivence.
Alors justement, je voulais vous poser une question en tant que juré, c'est-à-dire, alors il y a ce like, il est possible sur Facebook, mais il est aussi possible aujourd'hui sur un autre réseau social qui est Twitter. C'est-à-dire, avant, on avait une petite étoile pour mettre en avant un contenu. Aujourd'hui, c'est un petit cœur. Donc, a priori, ça veut dire qu'on apprécie, qu'on aime le contenu que l'on va signaler. Et très souvent, alors sur les comptes, on voit retweets ou likes are not endorsements. C'est-à-dire, je ne valide pas forcément ce que j'aime. Est-ce que ça, en tout cas, le fait de le dire, ça nous protège juridiquement en cas d'éventuelle poursuite, Valérie Nicolas?
Le tweet ou le retweet, de toute façon, ne peut pas être déconnecté des conséquences qu'il emporte. Et si le tweet ou le retweet, par exemple, fait apologie de crimes contre l'humanité, on est susceptible d'une sanction pénale, c'est-à-dire d'être attrait devant le juge pénal. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. Mais on ne peut quand même pas assimiler Twitter et assimiler à Facebook, parce que la dynamique n'est pas la même, et la logique de l'amitié sur Twitter n'est pas la même que sur Facebook. On peut avoir des amis sans avoir accepté sur Twitter.
Amel Guiton.
Oui, c'est sur cette histoire du passage effectivement du favori au like, oui, sur Twitter, ça a posé problème à beaucoup de gens, dont les journalistes par ailleurs, parce que là on a effectivement le cas d'une entreprise qui décide d'un changement qui paraît, oui, un tout petit changement, mais qui va à l'encontre d'usages largement répandus, notamment le fait de favoriser, enfin de mettre un favori sur un contenu dont on ne veut pas perdre la trace, parce que effectivement dans le fil Twitter ça peut disparaître très vite. C'est comme un marque-page, et ça a été très très utilisé comme un marque-page. Mmh. Effectivement, le petit cœur semble indiquer une espèce de connivence, mais encore hier, je voyais une journaliste sur Twitter qui justement expliquait le fait de liker un contenu, ça n'implique absolument pas que je le partage, c'est juste que effectivement je m'en sers comme de marque-page. Donc là, on a un heurt net entre ce qu'est la pratique et la décision qu'a prise Twitter.
Ça suppose en tout cas qu'on réfléchisse à ce que l'on fait sur les réseaux sociaux, évidemment.
Heureusement, parfois, mais c'est vrai que, par exemple, l'exemple qui vient d'être donné, la journaliste qui utilise le like comme marque-page, c'est un usage très naïf. Je veux dire, ça veut dire que c'est un usage qui se prête à des différentes interprétations et peut-être des développements légaux qui sont différents. Or, pour mon expérience en tant que chercheuse, moi aussi j'ai dû suivre pas mal de comptes et pas trop drôles dans ma recherche. Nous on est plutôt protégés on demande à pouvoir faire nos recherches, mener nos recherches, mais par exemple l'ordre c'est ne rien faire. Vous pouvez observer, mais vous ne pouvez pas liker, retweeter. Vous êtes un observateur. Et c'est vrai que, disons, la question que je me pose, on se retrouve depuis 9 ans, pas plus que ça, enfin, dans cet univers des réseaux sociaux. Nous, on est arrivés, enfin, moi au moins, déjà à un certain âge. Enfin, je n'étais pas toute gamine quand ça a démarré. Et on en a fait un usage très excité, mais très naïf. Très naïf, en acceptant tous les termes and conditions sans même pas les lire, en donnant toute notre information personnelle à des acteurs qui sont des acteurs du marché privé, comme Facebook. Enfin, si vous voulez, lorsqu'on parle d'amitié et de confiance sur les réseaux sociaux, moi, la chose qui me fait un peu rigoler, c'est que, disons, notre meilleur ami, c'est Mark Zuckerberg et les propriétaires de Facebook. Pourquoi on n'a pas créé, par exemple, un Facebook européen, un accès ouvert? Pourquoi il n'y a pas des réseaux, pourquoi il n'y a pas 150 réseaux sociaux au lieu que ainsi, disons, plus important que les autres. Donc, je dirais, on est très naïf. C'est des pratiques nouvelles, donc il faut développer des stratégies sophistiquées.
Il y a quand même un réseau social qui existe aujourd'hui, qui est très populaire chez les jeunes, qui s'appelle Snapchat. Est-ce que son existence et sa popularité ne tient pas au fait qu'il permet justement d'échapper à cette traçabilité sur Internet, puisque les messages, a priori, les messages donc vidéo qui sont envoyés, s'effacent au bout de 10 secondes après les avoir lus. Donc, ce qui donne une façon de retomber, on va dire, dans l'oubli que n'offre pas toujours Internet. Valérie Nicolas, non, vous n'avez pas l'air
tout à fait... C'est le terme oubli qui me fait réagir, parce que...
C'est une fausse disparition ?
Oui, mais bien sûr, on sait bien que de toute façon, en l'état actuel de la technique, on pourrait être oublié, en l'état actuel de la pratique, on sait très bien qu'on n'est pas oublié sur le net, hein, et quel que soit le réseau social par l'intermédiaire duquel on intervient. Donc effectivement, l'instantanéité, ça va vers dans le sens d'Instagram aussi, l'instantanéité de la production ou du contenu sur ces réseaux, elle est un avantage, parce que l'on croit être protégé par la disparition au moins immédiate, visuelle, de ce que l'on a, de ce qu'on a produit. Mais je pense que c'est un leurre.
Alors, quand on entretient des amitiés numériques, il y a donc cette question et cette préoccupation de la protection, on va dire, juridique, c'est-à-dire de ne pas avoir de soucis avec la police ou avec la justice à cause de pratiques. Et puis, il y a aussi une protection sociale, c'est-à-dire on cherche à soigner sa réputation.
Naomi était ma meilleure amie.
Arrête.
Je lui souhaite le meilleur et je lui fais part de tous mes vœux de bonheur. Et oui, c'est vrai, si en prime ça me rapporte un max de points de la part de ses amis populaires, je vois pas où est le mal.
C'est quoi ton objectif? Tu vises combien? 4.3, 4.4...
1-1. Oh, génial. Mon taxi s'est barré. Il m'a mis une sale note, j'ai plus qu'à m'en trouver un autre et en prime, je perds des points. Bravo, super.
Oh, ben excuse-moi si je te préférais quand t'étais normal. Bien avant cette obsession de la note, quand on discutait pendant des heures, tu te souviens?
Il me faut mon chargeur.
Toute cette histoire de notation, je trouve que c'est... Comment tu peux vouloir te comparer à...
T'aurais pas vu mon chargeur?
À des gens qui font semblant d'être heureux.
Voilà, extrait d'une série britannique, Black Mirror, qui est une série d'anticipation qui imagine notre monde à venir bouleversé par les technologies, un monde plus ou moins proche de celui qu'on connaît aujourd'hui. Dans l'épisode, dans l'extrait de l'épisode qu'on vous a diffusé, on est dans un monde où les gens, dès qu'ils se croisent, se notent les uns les autres et où le statut social dépend de la note qu'on va avoir. On a intérêt plutôt à ne pas avoir une mauvaise note parce que sinon, il y a tout un tas d'espaces publics qui vous sont totalement fermés. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, Gloria Origis, sans être tout à fait dans ce monde-là, on y est déjà un peu parce que la réputation que l'on a sur Internet et donc les amis que l'on accepte d'avoir sur les réseaux sociaux disent quelque chose de votre statut social.
D'abord, ce que vous dites, c'est très intéressant parce qu'il y a l'année passée, enfin, il y avait eu une proposition d'une application, d'une app réputationnelle pure. Vraiment, je peux vous noter comme ça maintenant.
Je crois
tout
que c'est
suite,
People.
Voilà.
P2EPLE.
Vous trouvez encore trace sur Wired. Elle n'a pas vraiment décollé. Aussi, il y a eu des problèmes de type comme ça, d'éthique, légale, etc. Mais c'est vrai que, disons, le nouveau protagoniste de nos relations sociales, qui est notre ego social, est un ego profondément comparatif, enfin, qui se regarde au miroir tout le temps. Enfin, on a tous l'expérience que, même sur Facebook, quelque chose, on vit mieux une expérience si quelqu'un nous regarde la vivre. Enfin, par exemple, lorsqu'on partage une photo, lorsqu'on partage un article sans même avoir fini de le lire. Donc, en fait, il y a une dimension qui est éminemment comparative, qui est partie de nos sociétés, qui est un effet collatéral, que j'essaie d'expliquer aussi dans mon travail, dans mon livre, des sociétés interconnectées. C'est un effet des réseaux sociaux. Enfin. Mm-hmm. Donc, bien sûr, là, la valeur s'est créée dans la comparaison. D'avoir une valeur. Et j'essaierai un peu aussi une façon. J'aimais la série qui dit enfin, tu n'es plus normal. Mais il n'y a plus cette distinction entre normal et social. Enfin, on va et vient en continuation entre notre ego intime et notre ego social. Et il faut tout simplement commencer à avoir une espèce de dynamique un peu plus nonchalante et un peu plus, disons, gracieuse de gestion de notre ego social. Pour l'instant, on est vraiment comme des. voilà, des provinciaux qui débarquent dans la Paris des salons et ils ne savent pas les codes. Enfin, donc il faut un peu il faut apprendre. Mais sur ça, il faut apprendre, il faut aussi les outils pour apprendre.
Enfin. Oui,
sauf qu'on fait quand même encore une différence et on nous demande de la faire, notamment pour la protection de nos données, entre le virtuel, l'usage de nos données dans le monde virtuel, et la vie réelle, qui n'emporte pas la même protection de nos données personnelles, parce qu'on ne les utilise tout simplement pas au travers des nouvelles technologies. Moi, de ce que vous dites, ma réaction, elle est que nous nous regardons, et c'est ce que l'extrait nous laisse entendre, nous nous regardons, nous nous mesurons, voilà. Il y a une forme d'équilibre ou de déséquilibre que cela crée. Mais
nous nous regardons et nous existons dans le regard
dans
des
le
autres.
Regard des voilà. autres.
Exactement.
Alors ça, c'est aussi comme ça dans la vraie vie. Cela,
oui.
Dans la vraie vie, je dis pas que la vie sur les réseaux sociaux c'est la fausse vie. Il y a plus du tout cette distinction aujourd'hui. Enfin, en tout cas, voilà. Mais peut-être que le phénomène est amplifié, c'est-à-dire que les autres peuvent voir aussi comment les autres qui nous regardent.
Mais il y a quelque chose qui est assez gênant, c'est le regard du réseau social sur nous. Et l'intervention du réseau social sur notre vie virtuelle ou réelle, si on fait ou pas la différence. Et ça, c'est quand même beaucoup plus gênant. Parce que, toujours dans le cadre de l'exemple que vous venez de donner, on sait que de manière, et non pas virtuelle, est d'ores et déjà pratiquée l'incitation, la suggestion par le réseau social de nouveaux amis, la suggestion de nouvelles relations, la suggestion d'une intervention de plus en plus précise pour que nous compensions ou nous participions d'une joie de gens que nous ne connaissons pas, qui pourraient peut-être devenir nos amis. Et donc cette intervention-là, elle me semble non seulement une intrusion, mais pas l'intrusion de l'autre dans un déséquilibre, mais une intrusion d'un système, et qui est le système du réseau, et qui me semble là beaucoup plus pernicieuse.
Donc quand on pose la question, faut-il se méfier de nos amitiés numériques, et c'est ce que nous faisons donc avec vous trois, Gloria Ruiggi, Valérie Nicolas et Amaël Guiton. Ça veut dire aussi s'en méfier parce que ça peut modifier nos comportements, en tout cas devenir une forme de contrainte, nous obliger à rentrer dans une forme de moule pour correspondre aux amis que l'on s'est donné sur les réseaux sociaux.
Amaël Guiton. Alors il y a sans doute un peu de ça. Après, ce qui est fascinant et effrayant, hein, c'est que tout ça est quand même très neuf en réalité si on regarde et que ça va extraordinairement vite. Mais on arrive dans un moment où on est effectivement dans des injonctions contradictoires. Parce que la question qu'on se pose là, de dire est-ce que un ami Facebook ou un contact Twitter peuvent nuire à notre réputation, elle est aussi d'un autre côté compensée par quelque chose d'assez nouveau, qui est l'injonction à sortir de sa bulle. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup redit, travaillé, notamment au moment du Brexit, puis de l'élection présidentielle américaine. C'est l'idée qu'effectivement, les algorithmes ont tendance à nous enfermer dans notre bulle et qu'on ne va pas en sortir. Et il y a notamment aujourd'hui pas mal de débats, alors parmi les journalistes notamment, mais je pense que c'est pas forcément la seule profession qui est concernée, à justement sortir de cette bulle, à être en contact avec des gens qui vivent des expériences qui sont radicalement différentes de celles qu'on vit au quotidien, par exemple quand on est parisien, qu'on bosse dans une rédaction d'un quotidien ou des choses comme ça.
Et mais ça veut dire, Amaël Guiton, que si par exemple j'ai tel type d'amis, alors restons sur Facebook, hein, qui est quand même le premier des réseaux sociaux dans le monde, si j'ai tel type d'amis, Facebook et les algorithmes de Facebook vont me proposer un certain type d'amis qui correspond au profil de ceux que j'ai déjà.
De toute façon, il y a un phénomène, bon là pour le coup, qui est très clairement identifié, c'est que ça renforce on va dire une sphère de contact. C'est-à-dire que quand on est ami avec A, B ou C, qui sont eux-mêmes amis avec X ou Y ou Z, c'est plutôt ces gens-là qu'on va nous proposer, évidemment. Et donc, ça renforce, l'effet de communauté. Mais de toute façon, la logique même de Facebook, c'est la logique de communauté qui peut être, pour le coup, assez contradictoire avec l'idée même d'en sortir et d'être en prise avec la société beaucoup plus largement.
Donc j'ai quand même intérêt peut-être à faire attention à qui je choisis sur les réseaux sociaux comme amis, même si ce ne sont pas des amis au sens traditionnel du terme, pour reprendre la formule de la Cour de cassation, parce qu'il y en a peut-être aussi qui peuvent me porter préjudice, en tout cas porter préjudice, Gloria Ruiggi, à ma réputation.
Donc, je suis en train de vérifier combien de nouveaux amis ou prépositions d'amitié j'ai sur Facebook en passant à la radio. Ça, c'est quelque
Sur quel compte Facebook vous en avez plusieurs?
Bah, écoutez, j'en ai un seul. J'ai un usage, enfin, étant donné mon grand âge, j'ai un usage très naïf de Facebook où je poste les photos de mes enfants et les articles académiques. Donc, c'est plutôt idiot, mais enfin, c'est comme ça. Et c'est vrai que...
Et donc, vous en avez combien de propositions de nouveaux amis?
Bon, pas beaucoup. Je suis un peu dessus. J'ai juste... 15 nouvelles propositions d'amitié, j'aurais passé
pas
si un peu.
Faut pas regarder.
Et alors, en Italie, quand je passe à la télé, je passe assez souvent à la télé. Et pour les Italiens, sont déjà assez simples. Et donc, la télé, c'est comme la transustanzation. Vous devenez comme la Madone, mm-hmm. enfin, si vous passez à la télé. Et donc, le soir même, j'ai type 150 ou 300 demandes d'amitié. Et il y a un bon nombre de demandes de mariage, par exemple, des gens qui me demandent un mariage, d'autres qui veulent me raconter toute leur vie, comme ça. Donc, bien sûr, on fait un. On fait un tri. Sur l'histoire que vous mentionnez, le fait qu'on est dans des chambres, des echo chambers, non, on mm-hmm. se retrouve. Alors, c'est vrai, de l'autre côté, il y a des effets qui sont intéressants. Par exemple, un sociologue américain qui a étudié les réseaux sociaux, qui s'appelle Granovetter, il avait parlé des forces des liens faibles. La force des liens faibles. Donc, un étudiant, comme il m'arrive sur Facebook, un étudiant en Inde peut me créer toute une espèce de groupe de groupes de fans en Inde auxquels qui ne font pas partie de mon réseau comme ça italo-français etc. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des effets des réseaux parfois qui nous font sortir, et sur ça aussi j'encourage des usages plus sophistiqués.
Mais un usage plus sophistiqué, ça pourrait être quoi pour vous trois, Valérie Nicolas, Amel Guiton et Gloria Oggi? Est-ce que ça pourrait être par exemple avoir justement plusieurs compte Facebook, ce qui permet, sans mélanger totalement toutes ces amitiés qui n'ont peut-être pas forcément à se confronter, mais de pouvoir entretenir différents réseaux d'amitié. Est-ce que c'est comme ça, par exemple, que vous pratiquez, Valérie Nicolas?
Voire même recevoir une proposition d'être ami avec son autre compte Facebook, proposition qui vous est faite par Facebook lui-même.
Ah, ça peut être
pas
mal.
Donc ça, c'est quand même... Voilà.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, on a, on va dire, même si c'est encore quelque chose de récent, des stratégies qui deviennent un petit peu plus élaborées en matière justement d'entretien des réseaux amicaux?
Oui, d'une certaine manière, on peut être dans la nécessité de fermer. C'est-à-dire, paradoxalement, cette grande liberté qui nous est offerte peut aussi nécessiter que nous nous censurions et que nous fermions les groupes d'amis et les organisions autour de thèmes comme les amis d'enfance, les relations de travail, la famille, et donc de créer plusieurs comptes. Mais parce que la maîtrise du contenu est une chose, la maîtrise de la relation en est une autre. Et je pense que justement, là, les conséquences de la définition de ce que n'est pas un ami, à mon avis, n'est pas sans conséquence sur la maîtrise. C'est-à-dire que nous n'allons pas forcément maîtriser notre relation, mais nous allons maîtriser ce que notre relation dit de nous ou fait avec ce que nous publions. C'est autre chose. Donc là, on peut peut-être faire une différence. Et puis après, il faut maîtriser aussi notre acceptation de la confidentialité, des clauses de confidentialité du réseau. C'est-à-dire que l'on peut n'ouvrir qu'à certains, seulement aux amis, ou seulement aux amis d'amis. Et donc, après, il faut affiner un tout petit peu la lecture des conditions générales d'utilisation du réseau.
Sauf que ça peut vous placer dans des situations un peu délicates. Votre patron, votre patronne vous demande comme ami sur Facebook, quel statut vous lui donnez, se méfier aussi de ses amitiés numériques. C'est aussi s'en méfier parce qu'on, du coup, ça va forcément contraindre et modifier la façon dont on pratique et dont on s'expose sur les réseaux, Amel Guiton.
C'est surtout que, alors effectivement, avec des relations de travail ou avec la famille, ça peut poser problème. Enfin, il y a des gens qui, par exemple, n'ont pas envie particulièrement d'avoir leurs parents comme amis Facebook. Or, ça peut être une demande.
Et mon fils, par exemple, hier je parlais de ma fille, donc aujourd'hui, je vais parler de mon fils, n'a pas accepté de me prendre comme ami sur Instagram. Ce qui m'a beaucoup déçu, mais enfin bon, c'est comme ça.
Mais parce qu'effectivement, il veut probablement garder une certaine forme de confidentialité sur un certain nombre de choses. Alors ça, c'est vrai que c'est la difficulté, c'est que finalement, les réseaux sociaux ne font que mettre en scène et rendre plus ou moins public à des degrés divers, parce qu'il y a effectivement les paramètres de confidentialité, mais des liens qui, d'ordinaire, ne s'inscrivaient pas forcément dans la place publique. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie optimale? Ça, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que les utilisateurs eux-mêmes même, développent des tas de stratégies différentes. Mmh. Ça peut être effectivement le fait d'avoir plusieurs comptes. Ça peut être le fait de n'en avoir qu'un seul et de tout noyer dedans aussi, parce que du coup, comme ça, les vrais amis, entre guillemets, n'apparaissent pas particulièrement différents des autres. Ça peut être...
C'est plutôt l'option que vous avez choisie.
Moi, c'est plutôt effectivement la mienne, mais c'est surtout que c'est plus simple, parce que j'ai pas envie non plus de gérer 12 000 comptes. Je passe déjà suffisamment de temps comme ça sur Internet. Mais ça peut être effectivement les groupes, ça peut être les paramètres de confidentialité. Enfin, les utilisateurs jouent avec tout ça. Et en général, ont toujours plus d'imagination, d'ailleurs, que les grandes entreprises qui chapeautent ces réseaux sociaux ne l'imaginent bien souvent. Enfin, en tout cas, c'est ce que montrent les sociologues. Il y a toujours des usages, effectivement, qui sont des usages un peu pirates ou un peu hors des clous. Ça, c'est... Et ça se développe et ça continuera à se développer. Oui.
Gloria Origi, on entend souvent parler de fracture numérique et on pense en général fracture numérique par rapport à l'accès au web. Mais est-ce que la vraie fracture, elle n'est pas entre, en tout cas une des vraies fractures aujourd'hui, elle n'est pas entre ceux qui maîtrisent justement la façon dont ils apparaissent sur les réseaux sociaux et donc qui peuvent les assumer et ceux qui ne font que les subir parce qu'ils n'en maîtrisent pas les codes?
Moi, je pense que la fracture fondamentale que vous mentionnez, enfin, dans le monde, l'accès au web est encore quelque chose qui manque à une grande partie de la population. Et de l'autre côté, ce que vous dites, c'est le problème, disons, numéro un aujourd'hui, de créer des usagers sophistiqués, des usagers vigilants. Ça veut dire à partir de l'éducation, de l'école, parfois, lorsque mes enfants viennent à la maison, mais je l'ai vu sur Internet, il faut demander où, comment, c'est quoi le URL, combien de gens l'ont retransmis, d'où vient l'information, toute une série de questions qu'on n'a pas sur les sources, par exemple, des questions vraiment de vigilance épistémique, enfin, excusez-moi le terme un peu philosophique et technique, mais je veux dire vraiment devenir des usagers plus sophistiqués. Comment on devient des consommateurs plus sophistiqués, enfin, je veux dire, les produits, ça ne suffit pas de voir Bordeaux sur l'étiquette pour acheter une bouteille et dire qu'elle est bonne, enfin, il faut voir comment les crues, l'année, etc. Pareil, enfin, il faut une espèce de système d'indices sur lesquels l'éducation aussi peut travailler. Enfin. Et moi, je travaille beaucoup avec mes étudiants sur ça. Enfin. Quand je leur demande la première question que je pose sur le cours, je leur montre un paquet de cigarettes et je dis « Lisez cette information, fumez-tu, pourquoi vous la croyez ?» Et vous avez toutes les réponses possibles, enfin, mais personne ne vous dit parce que la source est fiable, parce que seulement une certaine source peut mettre cette information sur un paquet, je veux dire, qui est le ministère de la Santé, machin, etc. Donc, je veux dire, on peut devenir un peu plus smart, enfin.
Intelligent. Valérie Nicolas.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Ouais. Ce qui montre bien que, d'une certaine manière, toutes ces technologies suscitent l'intervention de la règle de droit, parce que finalement, elles ne cessent d'intervenir pour essayer de poser des bornes, des limites, pour essayer d'encadrer et éviter les débordements, et des questions qui vont jusqu'à se poser, jusqu'à celles que la Cour de cassation a eu à se poser, et la Cour d'appel avant elle, c'est qu'est-ce qu'un ami ? Donc le droit appréhende, y compris l'intime et l'intimité. Donc, et l'autorégulation, la norme, le juge et l'autorégulation qui est en fait celle qu'on nous demande, c'est-à-dire pour fixer des bornes à ce formidable espace de liberté qu'est Internet et où on se demande jusqu'à quel point il n'y a pas une forme de paradoxe d'avoir un tel espace de liberté qu'on nous demande de restreindre nous-mêmes, c'est-à-dire de nous poser nous-mêmes nos limites.
Vous parlez d'autorégulation, Valérie Nicolas. Pour pouvoir s'autoréguler, alors il faut avoir une connaissance des outils informatiques, il faut aussi avoir une forme de maturité. On sait que les enfants, les adolescents peuvent être exposés à de mauvaises amitiés numériques. Il y a des questions de harcèlement pédophile. Il y a aussi des questions simplement de harcèlement plus large. Est-ce que là aussi on est dans la thématique finalement qu'on aborde ce soir de se méfier de certaines amitiés parce que ça peut conduire aussi à des drames?
Bien sûr, parce que de toute façon le mineur est protégé par la loi, mais il est aussi protégé dans sa condition, c'est-à-dire ne serait-ce que par les personnes responsables qui l'encadrent, de ses parents à toute personne l'encadrant. Donc, mais bien sûr, et je pense que d'ailleurs il n'est jamais oublié, la législation, il n'est jamais oublié. oublié, il est toujours mis en avant comme étant celui qui est la personne la plus en position de faiblesse.
Il y a d'ailleurs un délit de cyberharcèlement qui existe désormais et qui est d'autant plus sévèrement puni que la victime est faible, disons, enfin en tout cas
en position de faiblesse.
En position de faiblesse, oui. Voilà, et que l'auteur, lui, est au contraire mineur ou majeur, quoi.
Oui, et par ailleurs, en matière de droit à l'oubli, c'est même les mineurs qui, pour l'instant, sont les seuls à bénéficier, dans le cadre de l'usage des sites marchands seulement, mais qui sont les seuls à bénéficier du droit à l'oubli, donc d'une demande possible d'être oublié.
Juste un mot, Amel Guitton, pour conclure.
Ben oui, parce que la question que posait Gloria Oreggi, effectivement, c'est celle de ce qu'on appelle la littératie numérique, c'est-à-dire le fait, effectivement, d'apprendre à bien se servir d'Internet, apprendre à comprendre comment ça fonctionne. Après, là, c'est pour le coup, ça ouvre un autre débat, mais une des difficultés qu'on a, c'est que quand même, ces grandes plateformes, notamment Facebook, on ne sait pas vraiment comment elles fonctionnent. Il y a un vrai souci de transparence de ce point de vue-là. Et très manifestement, ça n'aide pas. Donc, il y a aussi un progrès à faire et une intervention de la puissance publique qui est
Les droits peuvent faire beaucoup.
Pour faire la transparence sur la manière dont ça fonctionne.
Merci, soumises à cette obligation. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Valérie Nicolas, Gloria Oreggi, je rappelle la réputation. Qui dit quoi de qui au PUF, c'était en 2015. Merci à vous, Amaël Guitton. Je renvoie, j'ai pas oublié de le faire tout à l'heure, Hackers au cœur de la résistance numérique. Ça a été publié aux éditions au Diable Vauvert, en partenariat, me semble-t-il, avec Radio France.
Oui, tout à fait. Oui.
Merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Thibaut Gervais. Émission que vous pouvez suivre sur notre compte Twitter. Au bout de 6 ans, nous en sommes à presque 9500 followers. C'est peu, on aimerait bien franchir la barre des 10 000 dans les prochaines semaines. À bon attendeur. Salut, à demain. En tout cas, demain. De quoi Trump est-il capable? Ce sera la question que nous poserons à partir de 18h20. Dans un instant, vous allez retrouver Ping Pong de Mathilde Serrel et Martin Kenéen. Ils reçoivent ce soir Abdellah Taïa et Pierre Maillet, un écrivain et un comédien.